Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de Saint-Benoît-du-Lac qui évoque la figure de Saint-François de Sales, né en 1567 et décédé en 1622, que l'Église fête le 24 janvier. Patron des journalistes et des écrivains, il est l'un des derniers grands auteurs spirituels de la langue française. Précurseur lointain de Vatican II, il est, d'après certaines sources, l'auteur catholique le plus publié dans le monde entier, après la Bible. Don Bolduc, bonjour.
Oui, c'est pas pire, mais seulement il y a peut-être un auteur qui était publié plus que lui.
Qui?
C'est l'Imitation de Jésus-Christ.
Ah!
Il y a la Bible, l'Imitation de Jésus-Christ, et puis
Saint-François de Sales.
Saint-François.
Bon, ben écoutez, merci pour la mise au point. On aborde néanmoins un géant, c'est un docteur de l'Église.
Un homme extraordinaire.
Hein? Bon, il est en cinq.
Tellement sympathique aussi, tellement sympathique.
Ah oui?
Ah! C'est incroyable.
Alors écoutez, Don Bolduc, il naît en 1567 en France. La France est déchirée par les guerres de religion. Vous savez, la réforme protestante a commencé au début du XVIe siècle, officiellement, si vous voulez. Là, tout le monde se déchire en Europe et en France, la France ne fait pas exception. Là, il y a un François de Sales qui apparaît. Il apparaît donc dans un contexte extrêmement tendu au point de vue religieux et politique. Il vient de quel milieu, lui? Il naît dans deux Sales, c'est un noble?
Oui, c'est un milieu aristocratique, mais pas de la grande aristocratique, surtout des militaires qui ont été ennoblis, vous savez.
Oui, oui.
Et puis, seulement, c'est un homme qui vient, enfin, qui est tellement extraordinaire, qui est tellement sympathique, vous savez. Mm-hmm. On ne peut pas faire autrement que de l'aimer.
Ah ben justement, en plus, le prénom François qu'on lui donne, ben, c'est en vénération pour François d'Assise.
Ah, ben oui, François d'Assise. Déjà... C'est un des saints qui fait le plus. Enfin, tout le monde l'aime, Saint-François.
Mais alors, à l'époque, dans la noblesse, le premier fils devenait, je pense, militaire, le deuxième devenait prêtre, c'est pas un truc comme ça? Est-ce que lui se destine déjà à la prêtrise ou...
C'est-à-dire que lui, il fait partie d'une grande famille. Hein, son nombre, ouais. Ils sont nombreux, ils ont 6 enfants, puis le plus vieux de la famille. Alors, ça paraît toujours dans ses écrits, vous savez. On voudrait qu'il parle toujours, puis avec ses frères et ses sœurs, l'écoutent. Alors, c'est très intéressant. C'est vraiment spécial.
C'est quand même quelqu'un, puisque vous parlez d'une grande famille, etc. Il connaît Henri IV, Louis XIII, mère Angélique Arnaud de Port-Royal, un grand nom, Saint-Vincent de Paul, le théologien protestant successeur de Calvin, Théodore de Bèze, le pape Clément VIII. Il connaît Richelieu également. Il a un carnet d'adresses assez fourni.
Ah oui, mais en fait, c'est qu'il y a des gens comme ça, vous savez, qui naturellement, là, ils ont des contacts avec tout le monde.
Ouais, ouais.
Parce qu'ils donnent toujours une réponse agréable quand on les contacte. Mm-hmm. Alors, c'est son cas. Par exemple, Théodore de Bèze, c'était un calviniste, comprenez-vous, puis le successeur de Calvin, puis un protestant bien errant. Mais lui, il décide de le contacter, de discuter avec lui. Alors, vous savez, c'est quelque chose qui ne se faisait pas à son époque. Alors, un jeune prêtre comme ça qui s'adresse à des protestants, puis alors là, lui, il essaie de discuter avec lui, puis d'avoir il devient ami avec tout le monde, avec tout le monde qu'il rencontre. Tous les gens qui le connaissent, qui ont des contacts avec lui, ils restent ses amis pour la vie.
Même quand ils sont dans des camps opposés, quoi.
Oh oui, même quand ils sont dans des camps opposés, ou même quand ils ont des idées et une mentalité qui est très différente de lui. Je ne sais pas, c'est un homme qui avait un don de séduire tout le monde.
Et il y avait de l'humour. Vous parliez dans Bolduc de Théodore de Bèze, le théologien. Alors, Théodore de Bèze lui pose la question un jour. Si on vous donne un soufflet, si on vous donne une gifle sur la joue droite, quelle est votre réaction? Et François de Sales répond: je sais bien ce que je devrais faire, mais je ne sais pas ce que je ferai. Ils deviennent copains, je pense.
Lui, vous savez. Il y a toujours une réponse qui fait rire tout le monde.
Alors, il y a quand même... François de Sales ne naît pas prêtre, il le devient. Il a étudié la théologie d'Augustin, de Saint-Augustin, de Saint-Thomas d'Aquin, et il se penche particulièrement sur les questions de la grâce et de la prédestination, qui sont les grandes questions de l'heure et qui agitent le protestantisme également.
C'est justement les questions qui nous différencient des protestants. Mais alors, seulement quand il était jeune, à l'âge de 15-16 ans, là, jusqu'à 25 ans, il est allé à Paris. Alors, c'est petit savoyard qui part des montagnes, là, puis qui s'en va, et puis arrive à Paris, là, il est dans un milieu qui est très, vous savez, très ouvert, puis à l'Université de Paris, là, tout le monde discute de toutes sortes de choses. Alors lui, là, comme il est très intelligent, puis comme il a beaucoup de facilité pour entrer en contact avec les gens, alors il fait des études, mais seulement il est bouleversé un petit peu par ce milieu-là, puis enfin, il est étonné. Mais d'un autre côté, il prend beaucoup, puis apporte beaucoup à ces gens-là, à tous les gens qu'il rencontre. Alors, c'était une période, sa jeunesse a été très, 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 très vibrante, puis enfin, pleine de charme, puis de découverte, puis tout ça. Puis, alors, il est devenu presque un grand théologien, et puis quelqu'un aussi qui a un background, si vous voulez, là, qui est très, très fort.
Il va vraiment faire sa marque à Genève, enfin Genève qui est devenue protestante.
Ben, la ville de Genève est protestante, incontrôlée par les calvinistes.
Par les calvinistes. Alors lui, il a un genre de poste, ben, parce que l'évêché était vacant, on le nomme prévôt du chapitre de Genève à Annecy, à côté de Genève, ça c'est en France, donc c'est catholique aussi, un poste qui dépend du pape. Et c'est là qu'il va vraiment essayer de dialoguer avec les protestants.
Il était évêque de Genève, mais il n'a presque jamais résidé à Genève.
Voilà.
Il a passé sa vie à Annecy.
Mm-hmm.
Parce que c'est que l'évêque de Genève, il avait été nommé à l'âge de 35 ans, évêque de Genève, mais seulement, il n'a pas jamais habité à Paris, à Genève. Il est resté chez lui.
Il va essayer d'établir des ponts avec les protestants. Il fait des sermons, évidemment, à Annecy. Ben, les protestants refusent d'assister, paraît-il. Alors, c'est là où il a une idée de génie. Et c'est un coup de com', comme on dit aujourd'hui, un coup de communication. Il fait placarder ses sermons sur les murs de Genève. C'est une première, je pense, dans la chrétienté. Et c'est là où les Genevois vont commencer à lire ce qu'il raconte.
En fait, tous les gens de Genève, ils voulaient savoir ce qu'il dit.
Oui.
Tout le monde voulait savoir, mais seulement, c'était pas possible. Vous savez, il a commencé à imprimer ses sermons, puis les mettre sur les murs, comme ça. Alors, tout le monde les lisait, vous savez. Il y avait beaucoup de prestige. Et puis, tous les gens demandaient qu'est-ce que François de Sales pense de ça, là, des choses que Calvin nous enseigne, puis toutes ces choses-là. Alors, il était mêlé à tous les problèmes, là. Et puis, en fait, c'est un homme qui a profité énormément de l'invention de l'imprimerie.
Ah ben oui.
Il est arrivé au moment où l'imprimerie existait. Alors là, ça a été une possibilité extraordinaire.
Évidemment, évidemment. Est-ce que les protestants étaient et sont toujours des gens extrêmement... Ils connaissent leur Bible beaucoup mieux que la plupart des catholiques. Est-ce que c'est ce qui explique pourquoi François de Sales a voulu également... Est-ce qu'il a écrit un catéchisme? Est-ce qu'il a publicisé un catéchisme?
Oui,
il a beaucoup agi là-dedans, je pense, non?
Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une de ses cousines, Madame de Charmoisy, qui était de son âge, puis avec qui était bien très proche d'elle, et puis qui lui disait, moi, je voudrais la sanctification, là. C'est pas seulement pour les religieux, moi, je suis une laïque, je suis une mère de famille, tout ça, mais je voudrais connaître les l'enseignement de l'Église, puis tout ça, puis comment est-ce que c'est qu'on fait pour dire une sainte dans une position comme la mienne? Alors là, il a commencé à lui écrire des lettres dans lesquelles il expliquait, vous savez, comment... Les principaux points, par exemple, du catéchisme, les principaux points de la doctrine chrétienne, puis fait la manière dont les chrétiens devraient agir, puis pour les chrétiens qui aspirent à la sainteté, bien, ils devraient faire tel et tel exercice, telle et telle prière. Alors, il écrit un... Alors, à un moment donné, il y a des gens qui ont un père un religieux qui a vu ces documents-là, puis il dit, vous devriez publier ça. Alors, il a fait des petites corrections, des petits ajouts là-dedans, puis enfin, finalement, il a publié ça. C'est devenu l'introduction à la vie des votes.
Oh mon Dieu, c'est ça!
Qui a été édité pendant, je pense que 40 fois.
De son vivant!
C'est un livre qui a connu une diffusion extraordinaire. Alors que lui, il n'avait pas pensé à ça. C'est arrivé comme ça, vous savez. Il était fait quand il rêvait, sans l'avoir voulu, sans l'avoir dit.
Saint-François de Sales, dont on parle aujourd'hui dans Bolduc, a aussi il rencontre en 1604, il doit avoir à peu près 37 ans, la baronne Jeanne de Chantal, qui lui était apparue dans une vision, puis un jour il la voit quelque part, il devient son directeur spirituel et il reconnaît que c'est elle qui était dans son songe, et elle devait fonder avec lui un ordre de la visitation qui nous a beaucoup apporté avec Marguerite Bourgeois ici.
C'est ça. En fait, vous savez, il y a des événements qui arrivent dans sa vie, et puis c'est des événements providentiels. Et tout à coup, il rencontre cette jeune dame-là, là, et puis elle est veuve, son mari vient de mourir, elle a plusieurs enfants, et puis seulement elle est prête là, à faire quelque chose, puis elle veut se sanctifier, puis elle veut aider les gens à devenir plus meilleurs chrétiens, puis ça. Mm-hmm. Alors, il devient fondateur d'un ordre religieux, alors qu'il n'avait pas du tout dans son schéma de vie, en fait, dans son projet de vie, mais seulement ça s'est réalisé.
Il y a quelque chose de très pédagogique chez François de Sales, parce qu'il va dire, il va être directeur spirituel de Jeanne de Chantal, avec qui il va fonder l'ordre de la visitation, de visitandine, et il lui ordonne, il faut tout faire par amour et rien par force, il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance.
Ah oui.
C'est la pédagogie moderne, ça.
En fait, voyez-vous, toute son idée, si on peut résumer dans un mot toute sa doctrine spirituelle, toutes ses idées, c'est que c'est un homme qui a cherché à faire toutes les choses par amour, par charité, par bonté, vous savez. C'est un homme qui a toujours cherché, quand il entrait en contact avec des gens, il essayait toujours d'être bon avec eux autres, puis de leur faire du bien, puis de manifester l'amour de Dieu. Parce qu'il était absolument fasciné, cet homme-là, par l'amour de Dieu pour nous.
Mais il a écrit un traité là-dessus, non?
Oui, justement.
Le traité de l'amour de Dieu.
Un traité sur la vie mystique. Là, Alors, c'est un homme qui était fasciné par ce que Dieu pense de nous. On n'imagine pas jusqu'à quel point Dieu nous aime. Enfin, alors, tout ce qu'il faisait, c'était pour essayer d'expliquer aux gens que Dieu nous aime, puis enfin qu'il est bon, et puis qu'il est la bonté même, puis enfin, là, quand il commence à parler de la bonté de Dieu, là, il n'arrête plus.
On est à l'orée avec Saint-François de Sales de la très très grande école de spiritualité française du XVIIe siècle. Il a été presque un des maillons essentiels, non?
Ah oui. Il y a eu beaucoup de contacts, même avec des auteurs. Par exemple, vous aviez comme Angélique Arnaud de Port-Royal. Oui. Eh bien, c'était une mère supérieure, vous savez. Port-Royal, c'était un petit peu janséniste. Hein.
Oui.
Et puis alors, mais lui, il l'a contacté, puis alors, il a établi une relation avec elle très, très spéciale, puis très, très chaleureuse, tout ça. À tel point qu'Angélique voulait quitter les sœurs de Port-Royal, c'est des cisterciennes, puis pour devenir passer à la visitation. Vous savez, c'est un homme qui était entraînant, il ouvrait des horizons à tous les gens qu'il rencontrait, puis il leur faisait du bien, puis il leur donnait l'idée de faire encore plus de bien.
C'est quand même quelqu'un, j'ai dit en introduction qu'il était un des précurseurs indirects et sans le savoir de Vatican II, parce qu'il ouvre de nouvelles voies de sainteté ouvertes à tous, et il va également, si vous voulez, ça c'est d'un côté, de l'autre côté, il va annoncer les moralistes du grand siècle, et Pascal notamment, et d'autres également, La Bruyère, tant qu'à faire, je veux dire... C'est quand même c'est un personnage charnière dans la vie catholique et dans la vie française.
Il joue un rôle extraordinaire dans la vie de l'Église parce que d'abord il avait une très bonne, très grande formation théologique. Alors quand il parlait, là, c'est un homme qui allait au fond des choses et puis qui, par exemple, le problème de la prédestination puis la grâce puis tout ça là, c'était le problème le plus discuté chez les protestants là. Alors lui, il trouvait une solution là, qui accommodait tout le monde puis enfin qui. Mais il faisait toujours voir comment Dieu nous aime. C'était ça qui était... Alors ça, c'est une chose que tous les gens qui étaient influencés par lui, qui lisaient ses écrits, ses sermons, puis ses ouvrages, comme l'introduction à la vie dévote, eh bien, tout le monde disait, bien, c'est vrai que, bon Dieu, on devrait avoir une relation personnelle avec... Chacun devrait avoir une relation personnelle avec Dieu, puis devrait l'aimer, puis enfin, devrait vivre dans le rayonnement rayonnement de sa gloire. Il y avait quelque chose qui faisait que tout le monde était d'accord avec lui.
On va devoir arrêter, Don Bolduc. Je sens que vous auriez pu continuer pendant des heures. On parlait donc de Saint-François de Sales, docteur de l'amour, d'ailleurs, aux yeux de l'Église. Fêté le 24 janvier. La semaine prochaine, on parle de Saint-Éphrem le Syrien.
Oh oui, Saint-Éphrem.
Allez, merci beaucoup, Don Bolduc. Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.